Cendrillon. Depuis Belle Lurette, on ne comptait plus en millions. Chez Saxman et Gross, les transactions s'étaient faites en milliards, puis rapidement en trillions. Et à ce jour, les téra-unités se comptaient en grillions. Inutile de préciser que le surnom de Cendrillon dont était affublée la jeune employée aux tâches de soutien logistique était ironique, voire méprisant pour la pauvre, qui ne gagnait que quelques milliers de brettes pour un travail peu enrichissant, dans les deux sens du terme, mais surtout le second. Ce sobriquet ne lui déplaisait pas outre mesure, car elle s'appelait Henriette Jouflard et ne cherchait aucune considération de la part des opérateurs soudés devant leurs écrans. Elle changeait les cartouches, portait les boissons, traquait les poussières afin que les salles de transaction soient aussi propres que la réputation de Saxman et Gross. Le sale et le pourri se cachaient dans les entrailles des computers, où se négociaient placements, prêts, spéculations, carambouilles et manipulations. Une sorte de roulette économique planétaire où la firme Saxman & Gross tenait le rôle de patron du casino. Cendrillon avait échappé à la rue et à la misère, car elle était la fille à peine cachée de Jürgen Gross, actionnaire majoritaire. Gross, jadis, avait séduit la mère de Cendrillon et magnanime avait décidé d'accueillir le fruit de ses galipettes dans l'entreprise. Aujourd'hui, tous deux avaient disparu et l'héritage de Jürgen était maintenant géré par la belle-mère, Grace Gross. La puissance de cette matrone se mesurait en ribambelle de zéro, mais aussi de réseau. Comme la vengeance et la diffamation faisaient partie de ses loisirs favoris, Grace Gross s'acharnait sur la petite. Elle n'était pas la seule, car pour progresser dans l'entreprise, il fallait cautionner l'attitude des dirigeants. Les deux demi-sœurs de Cendrillon ne s'en privaient pas. Chacune, responsable d'un département, fiducienne et pourcentine Gross, harcelait la pauvrette de corvées dégradantes. Ce soir-là, Cendrillon vidait les corbeilles gonflées des ordinateurs que les opérateurs avaient abandonnés en fin de journée lorsqu'elle vit défiler sur les écrans de veille une publicité qui la bouleversa. À l'occasion des fêtes de la Sainte-Arnaque, le comité de Saxman et Gross organisait un méga concert pour lequel il n'y avait que 500 000 places disponibles. Les premiers arrivés seraient les premiers servis. Ce qui bouleversa la petite ne fut pas le nombre limité de places, mais le nom de l'artiste qui se produisait. Zygmunt Cramé, le pape du spectacle heavy dark metal dur. Elle aurait fait n'importe quoi pour au moins une fois voir son idole sur scène. Cendrillon se sentit toute molle et gourde devant le portrait de la star au regard volupté et au rictus carnassier. Celui-ci comptait aussi en grillon et était de ce fait fort courtisé par Saxman et Gross. Outre ses énormes revenus, Zygmunt Cramé avait grande influence sur les réseaux et les flux financiers, car il occupait entre autres la charge de ministre de la Déculture. La pauvre mignonne se pâmait sur la nouvelle coiffure de Zygmunt, tout en plaquettes, rivets et serre-joints de métal clinquant, lorsque surgit sa chef de service, sa seule confidente, sa Maouen. Cette femme, souvent pleine, était aussi bourrée de tendresse et de lucidité. Elle avait bien remarqué sous l'uniforme que la petite cachait sur une silhouette de déesse, une coupole qui abritait une intelligence instinctive et singulière. Voyant la petite baver devant les écrans, elle lui dit d'un ton plus bourru que bourré.
T'aimerais bien aller au concert ce soir, hein? Évidemment, Mawen. Mais tout a dû être vendu en une heure. Sans compter que le ticket à 10 000 brets oblige à compter quand même.
Regarde, petite. Faut pas croquer. Tu l'as gagné de plaisir dans ta jeune vie. Je vais donc te faire un présent merveilleux.
La Mawen s'installa à un clavier et entreprit de montrer à Cendrillon comment elle couait une filiale, lui transférait des fonds propres et la nommait géante du compte. Une fois ce compte acquis, ce fut risette que de commander service et pâte blanche auprès des fournisseurs. Cependant, à minuit, quand les marchés feront leur mise à jour quotidienne, la filiale sera immédiatement dissoute et ses activités seront à jamais closes. Cendrillon, muette de stupeur, incrédule, vit débarquer dans le quart d'heure tout un personnel de costumiers, de maquilleurs, de relouqueurs, de garde-cœurs et de coacheurs. Le pompon sur le gâteau arriva sous la forme d'une Ferrari Sim, livrée avec chauffeur et casquette. La pauvrette, ivre de joie, arriva au concert où une loge VIP, vraiment idéalement placée, lui était réservée. Son éclat fut très remarqué et personne ne reconnut Cendrillon la Souillon. Quand Sigmund apparut, ce fut un délire monstrueux. Dans les feux explosifs et colorés, la star entra en lévitant sur un tapis de basse fréquence craché par de basses Panzer, soutenu par les quatre batteries Bertha qui faisaient monter la tension depuis plusieurs minutes, en attendant que la star ait fini de pétarouler dans les backstage.
C'est la rivière, tout près de la maison, le petit pont de bois, je te mets plus guère, je parle dans le mystère, et je te fais pour moi, le petit pont de bois.
Le show fut de degré waouh sur l'échelle de décolécatam. Lors des rives des turbogrates, Sigmund envoyait des œillades et grillardes à Cendrillon, vraiment idéalement placé. La coquine pouvait prétendre un accès en loge à la fin du concert. Hélas, au troisième rappel, elle constata à sa grande horreur qu'il était minuit moins 10. Elle eut grand-peine à rejoindre sa limousine car la foule était hystérique et des grappes de fans essayaient d'envahir la scène. Beaucoup furent abattus par la sécu, particulièrement nombreuses et vigilantes. Lorsqu'elle parvint à son véhicule, une nuée de prestataires se jetèrent sur elle pour récupérer les vêtements, les accessoires, les badges et les passes, ainsi que la Ferrari Sim qui s'éloigna sans elle en ronflant. Il était minuit. La gueuse, dépouillée sans crédit, fut contrainte de regagner sa misérable piole en rasant les murs. Car, dans la folie finale du concert, elle avait jeté sa petite culotte d'hiver à la tête de Sigmund, et la brise nocturne lui picorait les fesses. Le hasard ou le destin fit que Sigmund cramé, fortement navré de n'avoir point disputé quelques rounds avec la sublime Cendrillon, remua le ciel et les terres pour retrouver celle qui hantait ses pensées. Ses réseaux restant inefficaces, il se rabattit sur la seule piste exploitable, la petite culotte d'hiver. Il organisa donc une réunion où furent conviés tous les possesseurs de billets, en fait uniquement les possesseuses, afin de procéder à l'essayage du mignon cachuc. Il est admis que, d'une part, grâce aux notes de Charlie Pierrot et, d'autre part, au rapport de la Grimm Brothers, que le sous-vêtement finement ourlé de six ailes voluptueuses ne pouvait être compatible que sur les bas-reins de Cendrillon. Les essayages de fiducienne et pourcentine grosse frisèrent le ridicule, voire le comique, mais de toute façon frisèrent. Il fallut se rendre au bar, puis à l'évidence, Henriette Jouflard, dite Cendrillon, devenait la nouvelle meuf de Sigmund Cramé. Le pape du heavy dark metal dur. son escapade et sa création de filiale n'avaient pas été sans effet sur la crédibilité de Saxmadden Gross. Car la sacrée débilité des marchés avait vu passer dans les actifs de la société une filiale nommée Banque Route, qui mit une pagaille sans nom dans le système financier global. Saxmadden Gross fut condamné par le comité de gestion des commissions. Lorsque celui-ci se rendit compte que les fonds de la société n'étaient que tuyaux remplis de vide, de cautions et de prêts fantômes ou foireux. Grace Gross réussit à se réfugier sur son île privée, où elle mourut d'ennui rapidement. Quant aux sœurs malfaisantes, fiduciennes et pour centimes, elles trouvèrent un emploi dégradant de gonfleuse de poulet chez Mondial Carcasse. L'histoire pourrait se terminer sur des volées de cloches, des rires d'enfants et un manoir ensoleillé. Hélas, Sangrillon, la malheureuse compagne du sinistre Zygmunt, sombra dans les drogues et autres plaisirs coûteux et fugaces qui agrémentaient la vie trépidante de la star, notamment le vol forcé et l'aquaplouf. Lors d'une partie de saut de quenouille, elle se piqua avec une quenouille périmée et fut prise d'un délire de lucidité, ce qui la sauva d'une morne agonie de rombière acariate entourée de morveux braillards. Elle réussit à rentrer à l'intérieur d'un âne et à fuir au loin, au cœur de la forêt. Là, elle se fit appeler Planche Beige et expérimenta l'essai de nain. Mais ce fut un fiasco. Maintenant, elle part. Jolie petite histoire. Allô ? Non mais allô ?